Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs et l'info, comme je vous le disais, avec Amandine Bégaud. C'est tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous et à la une ce matin, l'adieu à Jean-Pierre Pernaut, le 14e jour de guerre en Ukraine et puis Real PSG, le match retour, c'est ce soir à 21h.
Nos deux focus, le panier RTL au plus haut depuis le mois d'octobre, ça n'étonnera à personne, et à 12h50, donc on se penchera sur les déclarations de patrimoine des candidats à la présidentielle.
Notre question du jour sur RTL.fr, guerre en Ukraine, êtes-vous prêt à diminuer votre consommation d'énergie? Vous dites oui à 54%, non à 42%. La météo du jour, c'est avec vous Céline Dacosta. Bonjour Céline.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Encore une bien belle après-midi en perspective.
Oui, avec beaucoup de soleil, surtout sur la moitié est du pays. Pour la partie ouest, on a une perturbation qui arrive par la Bretagne, qui apporte son lot de nuages. Alors ils sont nombreux sur le Finistère, avec un faible risque d'averse, un ciel plus variable près des côtes atlantiques, et puis les nuages sont nombreux aussi entre les Hauts-de-France et le Massif central, mais avec là de larges éclaircies. Côté température, c'est très doux cet après-midi, 4 à 6 degrés au-dessus des valeurs de saison, 12 à 16 degrés, ça c'est la moyenne pour la moitié nord, 14 à 18 pour la moitié sud.
Merci Céline, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer, direction la basilique Saint-Clotilde, dans le 7e arrondissement de Paris. C'est là qu'ont lieu les obsèques de Jean-Pierre Pernaut, décédé il y a tout juste une semaine. Laurent Marsic, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour RTL, la cérémonie est toujours en cours.
Oui, toujours sur le parvis de l'église, une grande photo en couleur de Jean-Pierre Pernaut. Il y est souriant, saluant de la main. C'est vraiment toute la grande famille du monde de la télévision qui s'est réunie ici pour ce dernier adieu. Il y a celles et ceux qui ont croisé sa route à TF1, Claire Chazal, Laurence Ferrari, Nikos ou encore Gilles Boulot, le présentateur du 20h, très ému.
Jean-Pierre, c'était à la fois un extraordinaire journaliste, un ami cher et un type formidable. Pour vous dire les choses simplement, l'endroit où on pouvait discuter tranquillou avec Jean-Pierre, c'était la cantine de TF1. Ça dit tout de lui, jusqu'au bout.
Et puis les copains et les copines des autres chaînes, comme Karine Lemarchand, Michel Drucker. Le monde politique est également là, Brigitte Macron, Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse. La famille a souhaité un hommage dans l'intimité, pas de retransmission donc à l'extérieur. On sait juste que cette cérémonie devait être accompagnée de nombreuses chansons de Johnny Hallyday, d'Edith Piaf ou encore Jacques Brel. Et puis derrière les barrières, quelques fans sont là, pas nombreux, mais des vrais fans, comme André, avec autour du cou des photos de Jean-Pierre Pernaut.
Jean-Pierre Pernaut, pour moi, il faisait partie de ma famille. Il faisait voir la France comme elle était belle et tout. C'était vraiment un super journaliste.
Voilà, la cérémonie devrait prendre fin vers 13h. Jean-Pierre Pernaut sera ensuite inhumé dans la plus stricte intimité.
Laurent Marsic en direct de la basilique Sainte-Clotilde pour RTL.
Dans l'actualité également, la guerre en Ukraine. 14e jour, Russes et Ukrainiens semblent enfin s'être mis d'accord.
D'accord sur un cessez-le-feu hein, pour évacuer les civils. On est loin, Pascal, de la fin de la guerre. Bonjour Bénédicte Tassa.
Bonjour.
On fait le point avec vous sur les dernières informations.
Oui, alors dans l'est du pays, à Sévrodonetsk, 10 personnes sont mortes visées par des tirs russes sur des maisons d'habitation. 9 autres sont décédées sous les bombes à Jytomyr près de Kiev. Mariupol reste assiégé. 300 000 personnes cherchent à fuir la ville portuaire sur la mer d'Azov. Mais les Russes empêchent toujours l'évacuation. Malgré un couloir humanitaire annoncé, les habitants sont pris au piège. Pas d'eau potable, pas d'électricité ou très peu par intermittence. Plus d'essence. Et les bombardements continuent. Médecins sans frontières prévient, les combats se rapprochent de l'hôpital. Normalement, il y a 6 couloirs humanitaires dessinés sur tout le pays, depuis Kiev, Kharkiv, Ernegodar, Soumy, où plusieurs milliers de personnes se sont déjà enfuies hier. 5000 personnes seulement sur 250 000 habitants.
Et dans le même temps, les négociations continuent. La Russie évoque ce midi des progrès. Hier soir, le président Zelensky se disait prêt à un compromis, à renoncer notamment à demander l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Alors voyons ce qu'en disent les premiers concernés, les Ukrainiens. Valentin Boisset, vous êtes allé leur poser la question à Lviv, dans l'ouest du pays.
Oui, un président qui se dit prêt à un compromis avec la Russie. Alors certains journaux ce matin parlent ici de concessions. Natalia lève les yeux au ciel.
Ce n'est pas une concession. De toute façon, l'OTAN ne nous aide pas. On leur demande de fermer le ciel et ils nous laissent mourir. Si ça peut calmer les choses, tant mieux.
Des paroles qui font écho à celles de Volodymyr Zelensky. Je suis prêt au dialogue, mais pas à la capitulation. Alexander, lui, va dans son sens alors que cette nuit, les troupes russes ont continué leur déploiement autour des grandes métropoles.
Il faut négocier avec la Russie, mais j'ai peur que ça nous joue des tours. Ils ne respectent pas les engagements de cessez le feu et nous faisons déjà des concessions.
Si le président va signer ce genre de papier, peut-être on va accepter.
Demain, de nouvelles négociations auront lieu entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays.
Elle vive le reportage pour RTL de l'un de nos envoyés spéciaux, Valentin Boisset. C'est dans ce contexte qu'Alexis Corbière, député de la France Insoumise et membre de la Commission Défense et des Forces Armées, a évoqué ce matin le contenu des livraisons d'armes françaises à l'Ukraine. Des gilets pare-balles, dit-il, des missiles anti-chars, éléments que l'exécutif a jusqu'ici toujours tenu secret depuis le début, en tout cas de ce conflit. Alors, bourde ou pas, l'intéressé se défend ce midi sur RTL.
J'invite chacun à lire la presse qui donnait des informations données par l'Élysée qui sont celles que j'ai redit ce matin. Je suis un peu étonné donc de cette manière de voir les choses. C'est l'Élysée qui parle, des gens du haut commandement et qui disent peu ou prou ce que j'ai dit. Donc pas de polémique inutile. Je vous informe aussi au passage que je ne suis détenteur d'aucune information confidentielle et je crois d'ailleurs que les parlementaires ne sont pas tenus au secret défense. Toutes ces notions ne sont pas dans le cas présent. Réel. Il peut arriver parfois qu'on vous demande la discrétion sur des choses.
Donc c'est pas une maladresse pour vous que vous avez commis ce matin ?
Pas plus que ce que les services de l'Élysée le font. Non, j'ai commis aucune maladresse.
Alexis Corbière, joint pour RTL par Benjamin Sportouche. Bénédicte Tassard, vous êtes toujours avec nous. C'est classé secret défense, ce genre d'information ?
En tout cas, le détail des livraisons françaises n'a jamais été publié. Le Quai d'Orsay s'est toujours refusé à diffuser quoi que ce soit. On sait simplement qu'il s'agit de matériel défensif. Mais sur l'antenne de RTL, vous n'avez jamais entendu le détail des livraisons.
Merci à vous, Bénédicte. Et pour l'instant, aucune réaction, hein, que ce soit du côté de l'Élysée ou de Matignon, suite à cela.
Conséquence de cette guerre, et on vous en parle depuis plusieurs jours, la flambée des prix de l'énergie.
Ce matin, Bruno Le Maire n'a pas hésité à comparer la situation à celle de 1973.
Le prix du baril de pétrole atteint 130 dollars le baril. Ça, c'est une donnée très lointaine. Mais ce qui est très proche, c'est les prix du diesel et les prix de l'essence à la pompe, qui sont insupportables pour beaucoup de nos compatriotes. C'est le prix du gaz qui a décuplé au cours des derniers mois. Si bien que ce n'est pas exagéré que de dire que cette crise énergétique, ce choc énergétique, est comparable au choc pétrolier de 1973.
Le ministre de l'économie a raison.
C'est vrai que les époques se ressemblent. Hein. Les époques se ressemblent. Vous venez de passer Bruno Le Maire ce matin. Mmh. Ben moi, j'ai une autre déclaration à vous proposer. Écoutez.
Économisons l'essence. Économisons l'électricité. Économisons le chauffage. Et mon Dieu, nous arriverons bien, je l'espère, à surmonter les difficultés.
On s'en remet à Dieu dans ces cas-là. Hein. Georges Pompidou.
C'est ce que j'allais vous dire. Aujourd'hui, mon Dieu, dans une phrase, elle n'est plus audible.
C'était le 20 décembre 1973. C'est l'époque de la création de l'heure d'été. C'est l'époque où l'on limite la vitesse sur autoroute à 130 km/h pour consommer moins. Bah, ça ressemble aussi à ce que disait Bruno Le Maire au début de la semaine. Mettez des pulls, baissez la température d'un degré chez vous pour baisser notre consommation d'énergie. Alors, maintenant, si on compare vraiment 1974 et aujourd'hui, on n'est malgré tout pas dans les mêmes proportions impactées par ce choc. À l'époque, le prix du baril, il était passé de 2,32 dollars à 9 dollars en quelques semaines. Donc fois 3, voire fois 4. On n'en est pas là, on est plutôt sur un doublement du prix depuis quelques mois. Les moteurs consommaient pour les voitures beaucoup plus qu'aujourd'hui. Nous étions également beaucoup plus dépendants du pétrole pour toute notre activité industrielle, puisqu'aujourd'hui, les sources d'alimentation énergétique sont diversifiées, notamment depuis cette époque, hein, le nucléaire, bien sûr, l'éolien, le gaz. Sur la décennie des 70s, vous aviez une inflation qui affichait en moyenne 10% de hausse par an, c'est-à-dire trois fois plus qu'aujourd'hui. Et à l'époque, on avait indexé les salaires sur cette hausse des prix pour éviter une perte du pouvoir d'achat. Pas sûr que ce serait la même chose aujourd'hui, parce qu'à l'époque, évidemment, la marge des entreprises avait fortement baissé, mais nos entreprises étaient moins exposées à la mondialisation. Enfin, en 1974, l'OPEP avait agi en cartel pour sanctionner la guerre de Kippour et l'intervention américaine aux côtés d'Israël. Aujourd'hui, États-Unis, Arabie Saoudite, pays du Golfe ou Venezuela sont prêts à augmenter leur production pour faire baisser les cours.
Merci beaucoup Martial. Martial Liu, chef du service économie de RTL. La présidentielle de premier tour dans 32 jours maintenant. Et une proposition signée Xavier Bertrand, c'était ce matin sur RTL. Le président de la région Hauts-de-France appelle Emmanuel Macron à débattre avec au moins les quatre principaux candidats. Écoutez.
Je veux bien comprendre qu'un débat à 12, c'est certainement pas facile. Mais il y a aujourd'hui trois ou quatre candidats qui peuvent être au second tour et qui se tiennent. Pourquoi ne pas accepter, il y a quatre semaines, un débat avec chacun des candidats, M. Macron contre Valérie Pécresse, M. Macron face à M. Zemmour, face à M. Mélenchon, face à Mme Le Pen, de façon à ce qu'il y ait cette confrontation d'idées. La campagne ne peut pas se résumer à un appel avec les dirigeants de ce monde, M. Poutine en tête, et puis une réunion chez Carl Olive où on interdit même à Jean Lassalle de rentrer Poissy. Quand même. Soyons sérieux.
Xavier Bertrand, invité d'Alba Ventura, c'était ce matin sur RTL.
Le match de la saison peut-être pour le PSG.
Ce huitième de finale retour de Ligue des Champions ce soir face au Real Madrid. 1-0 pour les Parisiens au match aller, avantage donc. Mais ça c'est sur le papier, Philippe Sanfourche.
Oui, car en trois semaines, la tendance peut s'inverser. Le PSG a suffisamment payé par le passé pour savoir. On leur parle pression. Les joueurs répondent plaisir de ferrailler entre puissants dans l'une des plus belles enceintes au monde. Marco Verratti et ses coéquipiers qui, il faut bien le dire, traînent parfois un peu leur ennui dans une Ligue 1 dominée sans effort, n'ont qu'un rendez-vous en tête depuis trois semaines, le match de ce soir.
Moi, j'ai hâte de jouer des matchs comme ça avec des grands joueurs dans mon équipe, contre des grands joueurs dans un grand stade et pour un grand rendez-vous, pour quelque chose d'important.
D'autant que la réception s'annonce sulfureuse en face. Le Real promet de sortir un de ces matchs de légende qui ont bâti son histoire. Et ses supporters y croient, comme Karl, expatrié français, grand fan madrilène.
Déjà, il y a le retour en forme de Benzema. Le Real a les moyens, franchement, de mettre en difficulté le PSG. Et ils ne peuvent pas faire pire que le match aller. Ensuite, je pense que le PSG va avoir un moment difficile dans le match. Et ça sera au Real d'en profiter.
Un suspense entier, une affiche de finale, des stars à l'appel. Toute l'Europe du foot ce soir aura évidemment les yeux braqués sur Santiago Bernabéu.
Et Philippe Sanfourche à Madrid pour RTL, Real PSG, c'est à suivre bien sûr sur RTL. Ce soir, RTL Foot spécial Ligue des Champions dès 20h45.
Dans un instant, nos deux sujets du jour, le panier RTL au plus haut depuis le mois d'octobre. Et puis après, on se penchera sur les déclarations de patrimoine des candidats à la présidentielle. Vous avez peut-être été surpris. Par exemple, Valérie Pécresse, c'est quasiment 10 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent. A tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Avec les crises X ou Y, on rajoute, on nous dit que c'est à cause du Covid, un coup à cause de la guerre, et tout augmente en fait. Moi, il m'arrive des fois de ne pas manger le midi pour faire des économies.
Sauter des repas pour faire des économies, certains comme Christelle n'ont plus le choix face à la hausse des prix de l'alimentation. Alors tous les mois, depuis le début du mois d'octobre, RTL, vous le savez, fait les courses, c'est le panier RTL, une quinzaine de produits du quotidien dont on suit l'évolution à la fois à Paris et en région. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
Comme Christelle que vous avez donc rencontré dans un supermarché des Yvelines, vous l'avez constaté, tout augmente.
Oui, notre panier coûte 71 centimes de plus que le mois dernier. Il s'élève maintenant à 24,55 €. C'est 3% d'augmentation en un mois seulement. Dans le détail, la bouteille de soda prend 1 centime. Le café, les céréales, le sucre, 2 centimes. 5 centimes de plus pour les œufs, 7 pour l'huile. Et même 20 centimes d'augmentation pour une barquette de steak haché. Alors à chaque fois, c'est pas très impressionnant, c'est quelques centimes. Mais mis bout à bout, à la fin, ça chiffre. Quand vous faites des grosses courses plusieurs fois par mois, c'est fait facilement 10 à 15 € de plus.
Et parmi les plus fortes hausses, les pâtes, plus de 17% pour 500 grammes de spaghettis.
Oui, depuis le mois d'octobre, ça, c'est l'augmentation la plus importante du panier RTL. En fait, il y a une particularité pour les pâtes qui explique cette hausse très impressionnante. Les réserves de blé dur indispensables à la fabrication des pâtes sont extrêmement faibles. La faute à un incident climatique, le dôme de chaleur en Amérique du Nord l'été dernier, près de 50 degrés dans certaines villes et certaines régions du Canada, premier producteur mondial. Plus d'un million de tonnes de blé perdues, couplées à des récoltes faibles en Europe, le cours a explosé. Certains professionnels craignent même des pénuries d'ici la prochaine récolte en juillet. Résultat, vous l'avez peut-être remarqué dans vos magasins, les consommateurs stockent, les rayons étaient clairsemés, si ce n'est à moitié vide, dans les trois quarts des hypermarchés du panier RTL.
Bon, et on est bien d'accord, Pierre, que toutes ces hausses, pour l'instant, ça n'a aucun lien avec la guerre en Ukraine.
Oui, exactement. Ça, ce sont les effets de la reprise économique post-Covid. L'été dernier, tous les industriels voulaient acheter en même temps. La demande était supérieure à l'offre. Résultat, les prix ont grimpé. Les prix de l'énergie, des transports, des matières premières, des emballages aussi. Et c'est tout ça qu'on retrouve finalement dans ces quelques centimes d'augmentation pour chaque produit du panier RTL. C'était le fruit de négociations en fait entre les industriels et les grandes surfaces. Problème, la guerre en Ukraine qui a rebattu les cartes. tous les prix négociés sont quasiment caducs. Avec la flambée des tarifs du gaz, de l'énergie, produire coûte plus cher, de plus en plus cher. Résultat, de nouvelles réunions pourraient avoir lieu rapidement, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, selon l'évolution de la situation en Ukraine, pour discuter éventuellement de nouvelles hausses de prix.
Oui, ça, ça ne va pas se voir forcément demain dans nos supermarchés.
En fait, c'est ça. Voilà, il va y avoir un décalage, si vous voulez. Là, ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui résulte finalement de l'été dernier. Donc, on va avoir des mois, des semaines, des mois. En fait, ça dépend. Si le prix du pétrole continue d'exploser aussi rapidement, là, les négociations seront rapides et les hausses de prix seront peut-être dans un mois, dans deux mois. Si ça se tasse, s'il y a des mesures qui sont prises, peut-être que ce sera un peu différé.
Une pause et dans un instant, le patrimoine des candidats. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Nathalie Arthaud. Fabien Roussel. Emmanuel Macron. Jean Lassalle, Marine Le Pen.
C'était il y a deux jours, Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, annonçait la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle. Nouvelle étape hier soir avec la publication du patrimoine de chacun d'entre eux. C'est une obligation depuis la loi de 2013 sur la transparence de la vie publique, assez récent donc. Bonjour William Galibert.
Bonjour.
Vous avez regardé dans le détail les déclarations de chacun des 12 candidats. Alors on va commencer avec l'actuel président Emmanuel Macron, qui déclare un patrimoine de 550 000 euros.
Oui, avec une longue liste de comptes bancaires ou de produits financiers divers et variés. Je ne vais pas tout vous faire, mais Emmanuel Macron possède 22 000 euros sur un livret A, 120 000 euros sur un livret de développement durable, 113 000 pour une assurance vie, puis il a un PEL, plan épargne logement, un CEL, compte épargne logement, un livret bleu, un livret fidélité. Il en a vraiment beaucoup, on dirait une plaquette publicitaire pour le Crédit Mutuel. Il est d'ailleurs, Emmanuel Macron, au Crédit Mutuel.
550 000 euros, ça paraît un peu plutôt pour un ancien banquier d'affaires, un président qui gagne par ailleurs aujourd'hui un peu plus de 15 000 euros brut par mois, non ?
La question s'était déjà posée dans les mêmes termes il y a 5 ans, avant qu'il ne devienne président. C'est vrai, Emmanuel Macron est l'un des rares qui ne déclare aucun bien immobilier. Mais on sait par exemple que c'est son épouse Brigitte qui est propriétaire de leur villa de 4 étages au Touquet, qui est estimée à plusieurs millions d'euros. Et puis on sait aussi que le président a, pour faire des travaux dans cette villa, contracté un prêt sur 15 ans et qu'il a remboursé entre 2017 et maintenant plus de 200 000 euros pour ce prêt. Dans le même temps, on sait aussi que son épargne pendant 5 ans a augmenté de 340 000 euros. Pour le reste, quelques indications. La haute autorité, après contrôle, a dit qu'il n'y avait rien de suspect dans les variations de patrimoine d'Emmanuel Macron depuis 5 ans. Cette haute autorité, elle n'est pas là pour contrôler les dépenses. Chacun fait ce qui lui plaît avec son argent. Et puis les déclarations de patrimoine et d'intérêt concernent juste les candidats et pas leurs conjoints.
Et ce qui est intéressant de dire, c'est que c'est déclaratif. Il n'y a pas de contrôle. Ils disent ce qu'ils veulent.
Jérôme Cahuzac n'avait pas déclaré ses comptes cachés à la haute autorité pour la transparence. C'est du déclaratif. Mais derrière, il y a des contrôles qui sont effectués. Emmanuel Macron, il a subi plusieurs contrôles fiscaux, contrôles poussés, notamment au moment de sa nomination au gouvernement. Oui, ça reste du déclaratif, mais enfin, les outils de contrôle se sont beaucoup renforcés ces dernières années, notamment depuis le mandat de François Hollande.
William Galibert, il y a quelque chose qui nous a tous surpris ce matin. Sur les 12 candidats, seuls 2 d'entre eux ont une voiture.
Oui, et pas forcément ceux qu'on croit. Nathalie Arthaud possède une Citroën C3 de 2006 et Philippe Poutou, l'ancien de chez Ford, roule dans une Peugeot, une 308 SW Allure, cotée 22 500 euros à l'Argus. Yannick Jadot, lui, a un scooter électrique, valeur 4000 euros. Et les autres, comme Valérie Pécresse ou Anne Hidalgo, ont une voiture avec chauffeur qui sont liés avec leur poste actuel. Donc ça explique pourquoi beaucoup de candidats n'ont pas de voiture. C'est parce qu'ils ont des fonctions qui leur fournissent déjà un chauffeur.
C'est-à-dire que sur les 12 candidats, il n'y a que 2 candidats qui feront le plein.
Voilà, c'est ça. Pour connaître les prix de l'essence.
Ils sont un poil déconnectés, nos candidats, me souffle Ludovic van de Kerckhoff. Il n'a pas tout à fait tort.
Et de mémoire, Emmanuel Macron avait acheté un coupé cabriolet Volkswagen au début des années 2000. On n'en a plus de traces, donc soit il a été vendu, soit il a été donné, soit il a fini à la casse.
Bon. Qu'est-ce qu'on retient d'autre dans ces déclarations, William ?
Que les candidats n'ont peut-être pas de voiture, mais sont tous propriétaires dans l'ensemble, donc sauf Emmanuel Macron. Valérie Pécresse a 3 maisons et des terrains pour une valeur totale de plus de 4 millions d'euros.
Non, mais elle est très riche, Valérie Pécresse.
Un patrimoine, juste pour elle, aux alentours de 10 millions d'euros.
Mais
c'est
vous rendez compte, mais combien de Français ont 10 millions d'euros ?
On est d'accord. Éric Zemmour, lui, est propriétaire ou copropriétaire à Paris de 5 appartements.
Ah, lui, c'est Stéphane Plaza. Plaza. Non, il a 5 appartements.
Pour un montant d'€1,8 million, juste sur ses valeurs immobilières. Nicolas Dupont-Aignan, un appartement de 104 mètres carrés à Paris, estimation 1,4 million. Plus d'€1 million aussi de biens immobiliers pour Marine Le Pen. Et puis, on note que Valérie Pécresse a aussi un goût pour l'art contemporain, sculpture, tableau, lithographie, 3 œuvres acquises pour 59 000 € ces dernières années, notamment des œuvres de l'Espagnol Miro. Fabien Roussel, lui, est propriétaire de 2 maisons dans le Nord, mais on a noté qu'il avait un petit découvert de 219 € sur son compte chèque.
Bon, est-ce
que c'est utile, voilà, vraiment ? Parce que c'est la transparence de la vie publique, on a dit depuis 2013 cette loi.
La transparence, oui. Après, il ne faut pas que ça tourne au striptease.
Là, c'est ce qu'on vient de faire. Voilà. C'est ce qu'on vient de faire quand même. Parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'on est tous pareils. On a tous regardé ça avec intérêt. On a tous parfois été étonnés. On a tous scruté, effectivement, le patrimoine des candidats. Parce que l'argent a une place particulière dans les sociétés.
Et est-ce que le patrimoine fait le président et inversement ?
Et pour ceux qui voudraient... regardez un petit peu, même si ça a un petit côté voyeur.
Oui,
il faut aller sur le site de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, HATVP, et vous avez les déclarations de patrimoine et d'intérêt des 12 candidats déclarés à cette élection.
C'est eux-mêmes, par exemple, quand vous disiez tout à l'heure, c'est déclaratif, c'est eux-mêmes qui évaluent, par exemple, c'est l'appartement ou la maison.
Alors, en général, on se fait aider, mais la question s'était posée pour Emmanuel Macron, qui avait sous-évalué justement sa villa au Touquet il y a quelques années. Il y avait eu un redressement et ça l'avait fait basculer dans l'ISF à l'époque, qui existait toujours avant qu'il soit élu. Donc tout ça est vérifié, les estimations sont contrôlées et si besoin, elles sont réévaluées pour être plus conformes à la réalité du marché.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on a envie de minorer souvent l'argent qu'on a. Aux États-Unis,
parfois, c'est l'inverse. Oui.
Voilà, aux États-Unis, par exemple, Trump, quand il était en faillite, il préférait dire qu'il était toujours milliardaire. Et c'était au contraire un avantage d'une certaine manière.
Là, ce sont des différences culturelles. Là.
Voilà, de montrer sa richesse. Bah, écoutez, merci. J'imagine que ça fera réagir là aussi fortement les auditeurs tout à l'heure. Il est 12h56. Une pause et nous revenons avec les auditeurs.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL.
Il est quasiment 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et quel est le sujet qui vous fait d'abord réagir ? Eh bien, il semblerait que ce soit le patrimoine des candidats. Bonjour Michel.
Oui, bonjour Pascal.
Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne initiative de tout publier ?
Moi, je pense que les déclarations des candidats ne sont pas du tout un gage de sérénité dans la campagne présidentielle.
Eh bien, vous allez nous expliquer pourquoi dans une seconde. Le rappel des titres avec Amandine.
Et à la une, bien sûr, cette guerre en Ukraine qui se poursuit. 14e jour de guerre. Russes et Ukrainiens semblent enfin s'être mis d'accord sur des cessez-le-feu pour évacuer les civils dans les villes frappées ces derniers jours. Malgré tout, les bombardements se poursuivent. Dans le même temps, les négociations continuent. La Russie évoque ce midi des progrès. L'actualité, c'est aussi cette cérémonie. La basilique Sainte-Clotilde dans le 7e arrondissement de Paris. Dernier adieu à Jean-Pierre Pernaut, décédé il y a tout juste une semaine. Une cérémonie en présence de nombreuses personnalités, bien sûr de la télévision, de TF1, mais aussi de Brigitte Macron, de Nicolas Sarkozy ou encore de Valérie Pécresse. Du foot ce soir avec Real PSG, on le rappelle, match retour de 8e de finale de la Ligue des Champions. Et puis notre météo avec vous, Céline Dacosta. Et c'est presque le printemps.
Mais oui, alors on ne le sent pas vraiment le matin, parce qu'il fait encore bien froid. Mais l'après-midi.
Il faisait plus chaud ce matin, il faisait 6 degrés.
Oui,
les
un
autres,
petit peu.
Voilà. Il faisait 6 à Paris, il y avait 2 degrés ou 1 degré.
Vous allez prendre ma place, hein, Pascal. Et on profite en tout cas, depuis hier déjà l'après-midi, d'une douceur bien agréable. Et ça va continuer encore quelques temps. Hein. J'ai noté un 19 degrés mercredi prochain à Paris. Donc vous voyez, ça dure. Cet après-midi, on attend 15 degrés à Rennes.
19 degrés mercredi prochain à Paris.
Parce qu'on sait déjà 15 degrés.
On a une tendance. On a une tendance qui est plutôt fiable.
Ça, je ne vais pas travailler mercredi prochain.
Vous
allez poser une journée avec Amandine.
Donc 15 degrés cet après-midi à Rennes, à Mulhouse, à La Rochelle, 16 à Paris déjà cet après-midi, à Grenoble, à Limoges, 17 à Bordeaux, jusqu'à 18 à Perpignan. Le tout sous un ciel encore relativement ensoleillé, surtout sur la moitié est du pays. À l'ouest, on a une perturbation qui arrive par la Bretagne. Alors du coup, c'est bien gris, surtout sur le Finistère, avec un risque d'averse et seulement 12 degrés. Bien gris aussi sur le Languedoc-Roussillon, avec là aussi quelques gouttes possibles.
Bon, alors, merci. mercredi, vous nous annoncez 19 degrés la semaine prochaine. Hein. D'ici là, demain, c'est encore pas mal, mais alors après, ça se gâte.
Oui, ça va se gâter un petit peu. Alors, la douceur, on va la garder, on l'a compris. Le soleil sera encore bien présent demain, avec toujours davantage de nuages sur l'ouest, avec cette perturbation qui va faire du surplace. Ça se gâte vraiment vendredi, puisqu'elle va avancer, cette perturbation, avec de la grisaille et des averses qui arriveront là aussi donc par tout l'ouest du pays, par la façade atlantique, et qui traverseront la France entre samedi et dimanche.
Week-end pas terrible. Merci beaucoup, Céline.
Merci, Céline. Merci à Amandine et merci à Ludovic Vandekerker qui était à la rédaction en chef de ce 12h30. Nous parlons argent.